Le journal de l'économie avec Charles Bonner.
Il est 6h49, l'économie au scanner de Radio Classique. Trois titres. Emmanuel Macron veut accélérer la mise en place de l'économie de guerre. Le gouvernement veut accélérer les économies budgétaires. Et puis Meta, la maison mère de Facebook, part en guerre contre les images trompeuses générées par l'intelligence artificielle. C'est d'abord la guerre en Ukraine et le besoin de produire des armes et des munitions pour les fournir qui a motivé le président à enclencher la mise en place d'une économie de guerre. C'est aussi désormais justifié par le symbole de réindustrialisation et de souveraineté française. Emmanuel Macron se rend aujourd'hui à Bergerac poser la première pierre de l'usine de poudre Urenco et Rekioche.
Emmanuel Macron ne vient pas seul à Bergerac. Dans ses bagages, les représentants de Dassault, Naval Group, Thales ou encore Safran, un aréopage de grands décideurs de l'armement français, pour affirmer une ambition, accélérer l'économie de guerre. Et le site d'Orenco signe ce retour des capacités de production en France, se félicite l'Élysée. Une renaissance de l'armement français, symbolisée donc par ce site de Bergerac, démantelé en 2007, de retour en 2024, il doit incarner l'accomplissement de la politique de réindustrialisation de l'État, avec une production de 1200 tonnes de poudre par an à partir de l'année prochaine. L'usine doit permettre à Nexter, fabricant de l'emblématique canon César, de fabriquer chaque année 96 000 obus, contribution non négligeable de la France aux objectifs européens fixés à 1 million de cartouches annuelles. Et avec des carnets de commandes pleins et 500 millions d'euros d'investissement prévus sur 2 ans, Orenco veut multiplier par 10 sa production de poudre. Un fleuron français qu'Emmanuel Macron a également choisi pour réaffirmer l'ambition de l'Élysée en matière de dépenses militaires, souvent dans la mire de Bercy, pour réaliser des économies et gagner la bataille du déficit public.
Les explications d'Éric Kioch, ce sont les grandes lignes de la stratégie budgétaire que la France enverra à la Commission européenne d'ici la fin du mois. Une sorte de feuille de route qui confirme que les finances publiques vont rester durablement dans le rouge. Éric Mauban, le gouvernement est donc contraint d'abandonner son objectif de réduction de la dette.
Ouais, il revoit effectivement ses ambitions à la baisse et prévoit désormais de stabiliser la dette à haut niveau jusqu'à la fin du quinquennat. Par ailleurs, il a également acté un nouveau coup de rabot de 10 milliards d'euros sur les dépenses publiques. Le déficit public restera persistant en raison d'une croissance du PIB trop timorée, évaluée à 1,4% le prochain, puis 1,7% en 2026. L'objectif de ramener sous la barre des 3% en 2027 le déficit par rapport au PIB est maintenu, même si rares sont les économistes à le juger crédible. Il reste maintenant à définir les nouvelles économies à réaliser. Les administrations seront mises à contribution, tout comme les collectivités locales. À cela devraient s'ajouter quelques mesures fiscales, comme une nouvelle taxation des rachats d'actions, mais pas de hausse des impôts, promet le gouvernement.
Éric Mauban, en direct, ces perspectives dépendent aussi de la croissance. À 1% cette année, selon la prévision du gouvernement, ce sera deux fois moins que ça. 0,5% répond l'OFCE, d'autant que les mesures d'économie, les 20 milliards au total cette année, risquent de brider encore un peu la croissance du PIB. Éric Ayer est le directeur du département analyse et prévision de l'OFCE.
La dépense publique, lorsque vous en faites, ça va bien dans la poche des ménages, en général, ou des entreprises. Et donc, lorsque vous réduisez cette dépense publique, eh ben forcément, c'est moins de pouvoir d'achat pour les ménages ou moins de subventions à des entreprises. Et donc, globalement, ça a une incidence sur l'activité. Un effort de 20 milliards, c'est à peu près 0,7 points de PIB. Et donc, généralement, ben, en tout cas dans le très court terme, ça enlève aux alentours de 0,6 points de PIB d'activité en moins. Donc oui, ça permet de réduire les déficits structurels, mais avec moins de croissance économique.
Alors pour relancer l'activité, le gouvernement veut donc réformer une nouvelle fois les règles de l'assurance chômage dès cette année et devrait pouvoir le faire assez librement après l'échec des négociations entre les partenaires sociaux sur l'emploi des seniors. Un échec qui est un coup dur porté au paritarisme et au dialogue social, selon Jean-Claude Ducatte. Il est spécialiste des questions sociales au sein du cabinet EPSI.
Le paritarisme est mis à mal pour deux raisons. La première, c'est la difficulté pour les organisations syndicales et pour le patronat à trouver des positions de consensus entre eux. Et le deuxième élément, c'est la volonté du gouvernement de vouloir mettre la main sur tout ce qui est du ressort du domaine social et donc plus particulièrement de la négociation collective. Aujourd'hui, c'est ce qui touche les problèmes des seniors, mais demain, qu'en sera-t-il sur l'Agirc-Arrco, sur tous les régimes de retraite qui se sentent menacés ou en tous les cas que les syndicats déclarent comme étant menacés par le gouvernement?
Les grèves s'étaient multipliées l'an dernier dans l'aérien. Un préavis de grève grève est déposée pour la journée du 25 avril. C'est le principal syndicat des contrôleurs qui s'oppose à une réorganisation de la surveillance du ciel présentée par la direction de l'aviation civile. La trêve olympique tant espérée n'aura peut-être pas lieu, comme l'a fait Force Ouvrière. Désormais, c'est la CGT qui dépose un préavis de grève du 15 avril au 15 septembre dans la fonction publique. Ça englobe donc les Jeux de cet été. C'est une réaction déjà aux propos de Stanislas Guérini, le ministre de la fonction publique, sur la fin du tabou du licenciement des fonctionnaires. Mais ça n'est pas tout. Céline Verzelletti, la secrétaire confédérale de la CGT.
Il y a les policiers, les douaniers, les agents des préfectures, de l'entretien et du ramassage des ordures. Certains ne pourront pas prendre de congé pendant parfois toute la période d'été. Pour certains, vont être déplacés puisqu'ils vont devoir renforcer les équipes parisiennes. Ils vont devoir avoir des astreintes, travailler le dimanche, le week-end. Donc, ce sont des contraintes qui doivent être compensées par des primes. Nous demandons aussi un accompagnement social pour ces agents, notamment, par exemple, qu'ils puissent avoir des garanties sur l'accès à une garde d'enfants. Si on obtient gain de cause, on n'aura pas besoin de se mobiliser demain ou pendant la période des Jeux Olympiques.
Céline Verzelletti, interrogée par Zoé Pallier. Il est 6h55 aux États-Unis. Les marchés dans le rouge après la publication des chiffres de l'inflation. Ils sont moins bons qu'attendus, à 3,5% en mars sur un an. C'est plus qu'en février. En réaction, le Nasdaq a perdu hier 0,84%, le Dow Jones 1,09%. Autre conséquence, la perspective d'une baisse des taux qui s'éloigne. Les minutes de la Fed sur la réunion de mars indiquent que ses membres sont plutôt prudents. Les marchés asiatiques ont réagi également ce matin, notamment le Nikkei qui était à moins 0,47%. C'est mieux pour la bourse de Shanghai à plus 0,37%. L'euro est à 1,07$ et le pétrole, le baril de Brent est à 90,61$. Pape en doudoune blanche, Emmanuel Macron qui manifeste avec des gilets jaunes. Ces images produites par l'intelligence artificielle sont fréquentes sur Internet, certaines peu plausibles, quand d'autres nous font au mieux douter. Meta, la maison mère de Facebook et d'Instagram, va identifier et marquer tous les contenus fabriqués par intelligence artificielle, textes, photos et vidéos, Céline Cajoulis.
Entre contenus fabriqués par l'IA et fake news, la frontière est mince. Si certaines compositions générées par l'intelligence artificielle sont facilement détectables par leur absurdité ou leur manque de cohérence, il en existe de tellement bien faites qu'elles sont difficiles à reconnaître. C'est ce qui pousse Meta à l'indiquer sur les contenus présents sur ses réseaux sociaux. Laurent Soli, président Europe Sud de Meta.
C'est une idée d'informer. L'étiquetage est une solution qui permet d'indiquer l'origine et la source de la création, mais c'est surtout indiquer à nos utilisateurs l'utilisation des outils d'IA générative qui vont se développer.
Et puis il y a autour de l'intelligence artificielle beaucoup de fantasmes. Sera-t-elle un jour supérieure à l'intelligence humaine? Nous dominera-t-elle? Pour l'instant, l'intelligence artificielle est plus puissante qu'un cerveau humain, mais elle n'est pas capable de raisonner comme un humain. Yann Lequin, directeur IA chez Meta.
Les systèmes d'IA aujourd'hui ont une grande capacité de mémoire, donc ils engrangent beaucoup d'informations sur lesquelles ils ont été entraînés. Ils peuvent adapter cette information à la question qu'on leur pose, mais en fait, ils ne sont pas vraiment capables de raisonnement. Ils sont extrêmement limités. On est encore très très loin, en fait, de pouvoir reproduire l'intelligence humaine.
Et à partir de la semaine prochaine, Meta, associé à un spécialiste de la formation, lancera une grande campagne d'initiation pour donner les notions d'intelligence artificielle de base à environ 30 000 Français.
Les explications de Céline Cajoulis, et si vous l'avez raté, dans les classiques de l'économie, ce matin à 6h20, Natacha Valla nous expliquait tout sur les réformes structurelles. Il est 6h57, dans un instant, la météo.